Donc bonjour à tous. Donc pour cette table ronde qui a été prévue, donc qui s'est mise en place ces dernières semaines, concernant donc le sujet science-fiction et politique, et notamment autour du propos des Nuits debout, donc et puis de la situation générale en France, la situation un peu politique, pré-insurrectionnelle qu'on vit ces temps-ci dans le pays. Ça nous semblait intéressant donc de rajouter dans le cycle de conférences une conférence pour faire le lien entre la science-fiction et cette période. Donc déjà je vais vous inviter à vous présenter, chacun à tour de rôle, vous présenter votre nom, rapidement peut-être quelques œuvres que vous avez pu signer, et surtout votre implication peut-être, on verra ça dans un second temps, l'implication à Nuits debout des uns et des autres, ou dans le... Voilà, je vous invite à vous présenter.
Bon, Catherine Dufour, écrivaine de science-fiction. Vous connaissez que j'ai surtout écrit Le goût de l'immortalité, La croissance mathématique du plaisir et Outrage et rébellion, qui est beaucoup plus dans la logique Nuit debout, il faut le dire. Et en ce qui concerne Nuit debout, moi je suis participante de Nuit debout un peu à Lyon et à Paris.
Sylvie Lenné-Cruzel, donc moi j'écris des nouvelles de science-fiction. Elles ont été réunies sous la forme de 4 recueils chez ActuSF. J'écris aussi des petites choses qui sont pas tout à fait des nouvelles. On a eu l'occasion de commencer à débattre de la situation à Nuit debout la semaine dernière. C'est là que l'idée de cette table ronde est née pour prolonger le débat.
Moi, je suis Licam. J'écris le fantastique et la science-fiction. En fantastique, j'ai écrit une saga qui s'appelle Les Chroniques des Stiges, plutôt l'urban fantasy vampire. Un roman feuilletonné, La chimère aux ailes de feu, d'anticipation société. Et j'ai écrit l'année dernière Azulon, qui est un roman de science-fiction, mais qui pose la question des technologies et de l'organisation de la société et de la démocratie. Au niveau Nuit debout, c'est vrai que j'ai su le mouvement avec beaucoup d'intérêt.
Dominique Doué, j'ai écrit pas mal de bouquins dans les années 70-80, puis je me suis arrêté d'écrire et je m'y suis remis assez récemment avec des inédits et des rééditions. Parmi les inédits, il y a la fenêtre de Diane, qui est mon dernier roman paru à ce jour. Que dire? Alors sur le plan politique, sur le plan de la littérature politique, j'ai fait partie, donc il y a longtemps maintenant, d'un mouvement qu'on avait appelé la nouvelle science-fiction politique, qui était en fait un groupe assez réduit, et qui se donnait pour mission, c'était dans la foulée de mai 68, qui considérait que la science-fiction était un vecteur intéressant pour exprimer des idées politiques. Ce mouvement a fait long feu, hein. Il a disparu assez rapidement et il a laissé assez peu d'œuvres marquantes. En tout cas, fort heureusement pour moi, je n'avais écrit dans ce genre pratiquement que des nouvelles. Les romans, eux, se situaient dans un registre plus vaste, prenaient plus de recul par rapport à la situation politique d'alors. Voilà, puis donc je suis revenu à la littérature, toujours avec cette même optique, c'est-à-dire de considérer que la science-fiction est un vecteur intéressant pour parler de politique sans parler de politique politicienne.
Du coup, pour enchaîner, un petit peu votre avis les uns et les autres, effectivement pour aller un petit peu plus loin sur ce que vient de dire Dominique, de quelle manière la science-fiction peut aborder le politique, la politique, et peut-être même plus précisément le sujet des insurrections, ou en tout cas c'est ces moments où le peuple s'unit, peut se révolter. Comment pensez-vous que la science-fiction aborde De quelle manière la science-fiction peut aborder ça?
Je veux bien commencer, oui. On a eu pas mal de discussions à La Nuit Debout, et une des choses qui m'est ressortie, moi, de manière assez évidente, après toutes ces discussions individuelles, souvent pas que des discussions collectives, c'est le fait que, finalement, on est actuellement dans une période où il y a beaucoup de gens qui ont envie que les choses changent. On sait qu'on arrive aux limites d'un système qui s'épuise et qui rend la vie intolérable à un maximum de gens. On arrive au bout peut-être du libéralisme capitaliste. On arrive au bout d'un certain nombre de choses. On a envie de changement. Mais une des caractéristiques de La Nuit Debout et pas mal de réflexions actuelles, c'est que oui, il faut que ça change, mais pour aller vers quoi? C'est ça la grande question qui n'est pas du tout tranchée, qui mettra peut-être longtemps à être tranchée. Et pour ceux qui arrivent à se projeter sur une vision d'une société souhaitable et désirable, il n'est même pas sûr que tout le monde ait la même en tête, ce qui complique quand même beaucoup la question de la transition qu'il faudrait passer. Moi, personnellement, je ne sais pas imaginer une transition si je ne sais pas vers quoi on veut aller, ou vers quoi je veux aller dans ma vie privée. La science-fiction, à mon avis, ce qu'elle a d'intéressant par rapport à ce mouvement, c'est qu'elle prend les choses complètement à l'opposé. C'est-à-dire qu'on peut se donner la liberté, en étant auteur de science-fiction, d'inventer des mondes différents. Et on peut inventer des mondes désirables ou des mondes détestables, mais on peut déjà, et c'est pas rien, démontrer que la société peut être organisée sur d'autres principes, sur d'autres modalités, que ceux qu'on nous présente actuellement comme des fatalités. Actuellement, on nous présente, par exemple, l'économie comme si c'était une espèce de loi naturelle contre laquelle on ne peut rien et qui doit organiser le monde. Or, l'économie est quelque chose de particulier, de totalement artificiel, que les sociétés humaines ont inventé, ont mis en place, et qui prennent toute la place actuellement, mais qui ne sont que des constructions intellectuelles. C'est des fictions aussi, d'ailleurs. C'est Norbert Merjanian qui disait que tout est fiction à La Nuit Debout. En tout cas, lire ou écrire de la science-fiction, c'est déjà se donner la liberté de considérer que les sociétés peuvent fonctionner autrement. Moi, personnellement, d'ailleurs, en ce moment, je n'ai pas du tout envie de lire de la science-fiction où il y a des messies ou des grandes familles qui dirigent le monde, qui ont tout le pouvoir, qui savent exactement comment nous diriger, nous, pauvres créatures inférieures, et qui, à la limite, ont des conflits entre grandes familles dirigeantes, le bas peuple étant plus ou moins exclu des récits. C'est pas du tout ce que j'ai envie de lire en ce moment. En tout cas, dans les discussions à La Nuit Debout, il y a en particulier quelqu'un avec qui j'ai discuté à un bon moment, je ne sais pas s'il est là aujourd'hui, je ne suis pas sûre, qui disait « Oui, mais est-ce que vous nous donnez des clés pour réfléchir à la transition? Comment on fait pour passer d'une société qui serait désirable, enfin de notre société à nous, à une société qui serait désirable ?» Nous, on ne travaille pas sur la transition, rarement en tant qu'auteur. Mais déjà donner quelque chose à désirer, c'est pas mal. Et même si c'est une dystopie, même si c'est une société qui n'est pas idéale, parce que les sociétés idéales, elles sont difficiles à imaginer, mais au moins une société autre, donnée à réfléchir à ça, je trouve que c'est un beau défi. Et on n'a pas besoin de réfléchir à la transition en même temps, on ne peut pas réfléchir à tout le temps.
Moi, ce que je peux dire, c'est qu'il y a, enfin, la société dans laquelle on vit, on sent un manque cruel d'idées. Alors, je ne dis pas qu'en tant qu'auteur de science-fiction, on a plus d'idées, mais en tout cas, sortir du politicien politique, enfin, de la politique politicienne, ça peut faire du bien, c'est une bouffée d'oxygène, et que, par exemple, lors des Nuits Debout, des personnes s'intéressent à la science-fiction et demandent à des auteurs de science-fiction de venir participer à un débat, j'ai trouvé que c'était une excellente idée. Parce que du coup, on sort quand même des habitudes politiciennes, hein, les socialistes d'un côté, toujours les mêmes qui viennent discuter, et on peut aborder des thèmes de façon plus simple, plus franc, plus sincère. Les débats peuvent être plus animés, parce qu'effectivement, on est sur un pied d'égalité, c'est-à-dire qu'on n'écoute pas quelqu'un qui vient porter plus ou moins la bonne parole, entre guillemets. C'est comme ça qu'on va faire. Là, on est plus dans une réflexion. En tant qu'auteur de science-fiction, on n'a pas les solutions, on a l'habitude d'extrapoler sur le présent. C'est-à-dire qu'on prend un fait, quelque chose qui nous intéresse, et on extrapole. Bien souvent, on arrive vers des dystopies. C'est vrai que, comme disait Sylvie, on arrive plus facilement à extrapoler sur des dystopies que sur des utopies. Et bien souvent, quand on veut extrapoler une utopie, on finit en dystopie. Mais on a quand même l'habitude de ce type d'abstraction, c'est-à-dire d'extrapoler. Après, de là à trouver les solutions, je pense que c'est quelque chose... Une solution, c'est collectif. Une solution, ça s'imagine ensemble. Mais en tout cas, qu'on nous demande... En tant qu'auteur de science-fiction, de participer à des débats, c'est forcément, ça apportera des idées différentes, nouvelles, je ne sais pas, mais différentes.
Pas d'autres interventions sur les alternatives, voilà, les alternatives que peut proposer la science-fiction à nos sociétés.
Alors, la SF, logiquement, c'est de prendre ce qui est actuellement dans les laboratoires pour imaginer ce que ça va donner dans 20 ou 40 ans dans le champ social. Donc, je ne sais pas moi, on prend la biogénétique et on obtient le meilleur des mondes. Qu'est-ce que ça fera quand on pourra manipuler les hommes des stades du fœtus ? Et la SF, souvent, elle doit, en général, alerter. Alors, vous avez deux SF, vous avez, pour moi, vous avez celle qui est distractive, je ne sais pas moi, Star Wars, et puis vous avez celle qui alerte, comme 1984, comme le meilleur des mondes, comme à quoi, comme, bon, qui alerte sur... les problèmes que nous risquons de rencontrer. Et son boulot, c'est d'aller voir ce qui se prépare dans les laboratoires ou ailleurs et de prévenir les gens, attention, vous aurez ça dans votre assiette d'ici 20 ans. Voilà. C'est le meilleur des jobs que puisse pour moi faire la SF. Alors bah, maintenant, je dirais que, je ne vais pas dire que la SF me paraît tout d'un coup devenue inutile, mais il faut bien dire que la politique, le réel nous rattrape. Il n'y a plus besoin d'ouvrir un livre de SF pour tomber sur la guérilla urbaine et un système épuisé et totalement inégalitaire. D'ailleurs, je regrette, je vais le dire, l'âge moyen de notre table ronde, parce que logiquement, c'est des jeunes qui devraient être ici, étant donné qu'on est enfin, je pense, dans nos jeunes. Bon, on est moins jeunes que si on était plus. Et globalement, moi, j'ai une affection, une admiration profonde pour cette génération-là qui est en train de se bouger, ce que les précédentes ont peu ou pas su faire. Moi, je viens de la bonne génération, c'était que des molasses. voilà. Nos grands frères, c'était des punks, ils n'étaient pas aimables. Puis, à part nos futurs, ils n'avaient quand même pas grand-chose comme programme politique, quoi. Enfin, bref. Et là, je passe une génération, je dirais, la science-fiction, ils n'ont peut-être pas besoin de ça parce qu'ils ont le nez dedans. Et ça, je trouve ça génial. Maintenant, parce que j'ai vu à Nuit Debout, c'est beaucoup de gens jeunes qui se sont mis à penser, à se politiser, à se positionner dans le réel. Et ça, c'est extrêmement bien, puis qu'ils ne savent pas quoi en faire. Bon, alors, d'un autre côté, il ne faut pas être trop pressé, on ne va pas faire un monde parfait en 5 minutes. Ce qui m'apparaît indispensable de faire, et ça, moi, je ne sais pas comment l'exprimer en tant qu'auteur de SF, c'est que le monde désirable... C'est pas qu'on en vient, mais on a su prouver que c'était possible. Voilà, un monde désirable, c'est un monde où chacun a le droit de vivre, d'avoir ses besoins élémentaires comblés, puis après, ben, il fait sa vie. Hein. S'il a envie de passer son temps devant un jeu vidéo, il fait ce qu'il veut. Et s'il a envie d'aller créer des choses merveilleuses avec d'autres, il peut le faire aussi. Et ça, on a prouvé, pas très longtemps et pas partout, mais on a prouvé que c'était possible. Et quand une population se met à travailler, les fruits de son travail peuvent être redistribués correctement, c'est-à-dire que ça peut servir à s'entretenir soi-même, plus payer des crèches, payer des écoles, et à l'autre bout, payer des maisons pour les seniors, et au milieu, payer pour les malades. Voilà, tout ça, on avait réussi à le faire. Et pourquoi est-ce que ça marche plus maintenant? C'est pas parce que c'est impossible, on essaie de nous faire croire que c'est impossible, pas du tout. C'est parce que l'essentiel des fruits de notre travail finit pas où il faut, c'est-à-dire dans des crèches et des hôpitaux, mais finit dans les poches de, on va dire, 100 aigres fins qui captent 80% de la richesse mondiale. Et c'est à cela, les Bolloré et autres, qu'il faudrait juste les attraper par les coucougnettes et les obliger à nous rendre l'argent qu'ils nous volent. Eux et leurs valets, c'est-à-dire les patrons des grandes entreprises. Quand je vois, je ne sais plus, un gosse ou autre qui a un salaire annuel qui est entre 7 et 16 millions d'euros, ce n'est pas un salaire, c'est ce qu'on appelle taper dans la caisse. Voilà, c'est voler notre argent. Donc pour moi, la société idéale, elle n'est pas loin, à quelques aigres fins près. Le seul problème, c'est que ce sont ces aigres fins qui possèdent aussi toutes les armes, les matraques avec lesquelles ils peuvent nous empêcher d'agir. Donc, moi, mon programme politique est très peu science-fictif et il est assez basique. Et c'est pas forcément la chose la plus passionnante dont je souhaite vous entretenir. Ce qui m'intéresse vraiment là-dedans, c'est de voir comment chez Nuit Debout, il y a véritablement une volonté, Nuit Debout, Auteur Debout, tout ce qui est debout en ce moment, une volonté de faire. Et au niveau du crowd-ideing, c'est pas encore ça. Comment faire pour transformer cette aspiration en lutte efficace? J'ai trouvé quelques pistes, notamment chez Fakir, vous avez entendu parler. J'étais à Nuit Debout, la place de la Répu. Il y avait un type de La Poste qui expliquait ça très bien. C'était exactement ce que j'avais aussi trouvé chez Fakir. Non, c'était pas Besançon. Non, c'est un syndicaliste de La Poste qui globalement explique comment on peut étendre ce combat dans des champs très concrets qui sont le champ tout simplement des entreprises. À La Poste, il voulait, comme d'habitude, employer quelqu'un pour son 15e ou 43e CDD. Il ne voulait pas la passer en CDI, c'était quand même une femme qui était payée à 80% du SMIC. On voit véritablement à la Sestana et que c'est à cause d'elle que les finances du pays s'effondrent. Donc ils ont fait une grève, 174 jours, 6 mois sans toucher un centime de salaire. Et de l'autre côté, les intermittents du spectacle à qui on explique toujours et toujours que vraiment ce sont des assistés, des sans-sup qui eux aussi font s'effondrer l'économie mondiale. Et du coup, le problème, c'est que quand vous faites grève dans votre société et que vous allez manifester, occuper, vous êtes identifié comme gréviste, comme activiste, et à ce moment-là, dès que la grève est finie, on vous fout dehors. Et les intermittents du spectacle, pareil. Et du coup, les intermittents sont allés bloquer les centres postaux pendant que les postiers allaient faire le pied de grue au ministère de la Culture. Et ils ont gagné tous les deux. Voilà. Et ils ont eu un minimum de side effect sur leur travail après. Et alors, ça marche super bien. Alors, quand les intermittents ont commencé à bloquer le siège social de La Poste, ils ont un petit peu gagné quand même. Et alors, le jour où ils ont bloqué le centre de fret de La Poste, 2 heures de blocage, 25 000 euros de perte. Ils ont gagné à la 3e heure. Ils ont tout obtenu. Voilà. Et donc, de l'importance de savoir cibler ses actions, d'abord taper dans le portefeuille. Et j'ai trouvé que c'était une idée juste géniale qui pourrait se répandre, d'interchanger les luttes pour une efficacité maximale avec un minimum de dégâts. Voilà, ça fait partie des choses que moi j'apprends, parce que je passe à Nuit Debout en journée en fait. Donc une fois sur deux, je tombe sur une marée de policiers, là je rentre chez moi, et une fois sur deux, je tombe sur des groupes de parole extrêmement intéressants où il y a comme ça des propositions d'action politique, concrètes, utiles et efficaces, que je trouve absolument géniales. Et donc, chère jeune génération, j'ai un grand espoir. Nous, on a raté, mais vous avez peut-être réussi.
Oui, je trouve l'intervention de Catherine particulièrement intéressante, dans la mesure où Catherine s'exprime comme citoyenne et non pas comme auteur de science-fiction. L'ambiguïté de cette table ronde, c'est qu'elle peut faire paraître, pour vous, les auteurs de science-fiction comme des gens qui auraient quelques prédispositions à décrypter la réalité et à prédire l'avenir. Moi, j'en suis persuadé, et je voudrais vous en persuader, les auteurs de science-fiction ne sont ni des philosophes, ni des sociologues, ni des économistes, comme le disait Sylvie. Donc, ils n'ont aucune compétence particulière pour dire voilà ce qu'il faudrait faire, voilà comment devrait être le monde de demain. Ils écrivent souvent sur le monde de demain, et souvent, comme le disait Sylvie, sous des dehors assez effrayants. Et ce qu'ils font passer dans leur récit, c'est leur peur de l'avenir. Et c'est nullement le résultat d'une analyse scientifique des éléments de notre présent permettant d'anticiper ce que sera la société de demain. Alors que beaucoup d'entre nous et choisi d'intervenir de façon, je pense, dans les nuits debout, enfin dans tout ce qui est debout, comme le disait Catherine, ça me paraît tout à fait intéressant. Mais je crois que aussi bien pour ceux qui participent que pour les autres participants à ces nuits debout, je crois qu'il faut être clair que nous n'avons aucune certitude ni aucune compétence à apporter.
Il y a peut-être une seule chose sur laquelle, comme on vit dans la science-fiction depuis très longtemps avec le monde dans lequel on vit maintenant est un monde de science-fiction en fait. C'est un monde qui a été imaginé par petit bout par la science-fiction il y a une trentaine ou une quarantaine d'années. C'est vrai que c'est un monde qu'on connaît côté de science-fiction.
On est moins dépaysé que d'autres.
On l'a lu, on nous a alerté. Ça fait 30 ans ou 40, voire 50 ans même qu'on nous alerte sur les systèmes de surveillance, sur la liberté individuelle, sur la génétique, sur tout ce qui nous arrive maintenant, qui était du domaine de la science-fiction il y a une trentaine d'années et qui est du domaine réel et présent aujourd'hui. Donc, en tant qu'auteur de science-fiction, c'est peut-être la seule chose qu'on peut apporter, c'est-à-dire une habitude. Ça fait plus longtemps qu'on vit dans cette réalité. On la projetait, on était... C'était de l'imaginaire, mais maintenant, c'est devenu du réel. Et la place de la science-fiction, c'est vrai que, comme disait Catherine, c'est difficile maintenant d'être auteur de science-fiction, parce que on a l'impression que la science-fiction ne sert plus à rien, vu que, on est dans un temps qui est un temps de science-fiction. Et c'est vrai qu'en tant qu'auteur de science-fiction, ce qu'on peut apporter, c'est... ça fait des années qu'on réfléchit sur les nouvelles technologies, sur la génétique, sur l'éthique. Voilà. On dit, ça y est.
Est-ce que du coup ce serait pas ça le lien finalement entre vous en tant qu'auteur de science-fiction, vous imaginez des suites, des futurs possibles, des sociétés futures, est-ce que c'est pas ça aussi ça le lien avec les Nuits Debout qui essaye elle aussi d'imaginer une transition, est-ce que c'est pas ce travail sur l'imaginaire, le lien qu'on pourrait créer comme ça entre la science-fiction et la politique actuelle faire les nuits debout.
La science-fiction, dans la science-fiction, il y a science. La science mène toujours effectivement à un paysage politique. Donc les livres de science-fiction sont souvent des livres très politisés. Mais n'empêche qu'il y a science dedans et ce qui se passe actuellement, si ce qu'il y a, on peut dire, d'évolution, peut-être pas scientifique, mais technologique dans les événements actuels, ce sont les réseaux sociaux. Ça, effectivement, ça change tout. Là, je suis en train d'essayer de suivre tout ce qu'on appelle le nouveau journalisme, c'est-à-dire, en gros, le journalisme horizontal. Il y a énormément de gens qui sont sur les événements et qui se prennent des gaz lacrymogènes plein la figure, et puis en plus des pavés sur la tête parce qu'ils sont pris entre les deux camps. Voilà, les policiers qui chargent, et puis de l'autre côté, les black blocs, les milis qui leur jettent des briques sur la tête parce que... Soit ils les prennent pour eux, les journalistes, et des infiltrés, soit tout simplement ils disent mal. Et ils diffusent ça via. Twitter, ils utilisent l'application Periscope. Ce nouvel apport technologique que sont les réseaux sociaux, à partir du moment où on considère ça comme nouveau, vu que ça a quand même déjà une petite quinzaine d'années, là ça a vraiment, vraiment changé la donne. Mais sinon, il n'y a, on va dire, pas beaucoup de science dans l'évolution politique actuelle. On n'a pas une rupture épistémologique due à, tout d'un coup, un nouveau paradigme, comme, je ne sais pas, la découverte que la Terre n'est pas plate, pas l'arrivée des antibiotiques ou des ordinateurs qui ont vraiment là été des ruptures scientifiques qui ont entraîné un changement social. Là, actuellement, le changement social est entraîné par une crise économique, un vol économique généralisé. C'est moins science-fictif, c'est plus économique que réaliste.
C'est
Oui, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vient de dire Catherine, parce que quand même, il faut mettre un peu d'ambiance dans un débat. Mais c'est sérieux. Quand Catherine dit la science-fiction, c'est d'abord de la science, et il ne se passe pas grand-chose de scientifique qui crée des révolutions dans ce qu'on voit actuellement. Moi, je suis scientifique, mais je suis en sciences humaines et sociales. Les sciences, c'est pas que les sciences dures. Alors, c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est pas que des technologies, c'est aussi des manières de communiquer qui changent en profondeur. Moi, je pense qu'en ce moment, on est vraiment dans quelque chose dont Orwell avait commencé à parler en 1984, mais dont on n'imaginait pas qu'il se passerait à grande échelle. C'est pas seulement la société de surveillance, c'est le travail sur le langage. Orwell a inventé la nouvelle langue dont le principe est d'appauvrir les concepts et la parole pour appauvrir la pensée et empêcher toute pensée révolutionnaire ou d'opposition. Mais ce qui se passe actuellement, c'est complètement fascinant, je trouve. C'est le fait qu'on a inventé tout un tas d'expressions figées qui sont prises et reprises dans tous les médias, qui signifie exactement le contraire de ce qu'elles sont censées exprimer. Quand vous parlez de chômage, de licenciement, de n'importe quoi, on va vous l'exprimer avec des mots qui ont toujours une tonalité positive de construction. Donc, c'est peut-être pas un hasard non plus si, dans le même temps, à l'université, on est en train de supprimer tous les postes d'enseignants-chercheurs qui travaillent sur la linguistique. On est en train de supprimer des tas d'emplois en sciences humaines et sociales, en sociologie, mais la linguistique est une des sections les plus touchées. Ils auraient peut-être beaucoup de choses à dire sur la manière dont le langage est actuellement utilisé comme une forme d'arme vis-à-vis du peuple. Les politiques sont en train de détourner les éléments de langage. Je trouve ça complètement révolutionnaire comme idée, complètement science-fictif et très, très scientifique.
C'est ce qu'on appelle le glissement sémantique, oui, qui était déjà utilisé par la propagande nazie.
Oui, c'est de la propagande, exactement. Mais fait de manière absolument systématique actuellement.
Oui, avec...
Sur tous les sujets.
Avec un esprit marketing maintenant, qui n'était pas présent.
Il y a du storytelling en plus, oui.
Et les médias aussi participent à relayer ce discours. Du coup,
En fait, c'est du marketing.
À qui ils appartiennent aussi.
Oui.
S'ils ne sont pas indépendants, les médias.
Mais notamment, j'ai pu assister, moi, une nuit debout, il y a eu sur les premières semaines des groupes de discussion qui étaient autour du langage, justement, et l'utilisation de certains mots. Il y a eu une très longue discussion qui a duré sur 2-3 jours où ils ont essayé de décrypter le terme de casseur, qui est un terme qui a été inventé par les médias. Pour séparer finalement mettre à part ces gens-là, alors que c'est des activistes qui sont extrêmement politisés, mais effectivement le fait de leur mettre le terme de casseur dépolitise complètement les actions de ces gens-là.
Le terme réforme aussi, on nous présente pour des réformes.
Ouais.
C'est un retour en arrière.
De toute façon, le capitalisme c'est une usine à mythes, hein. Bon, ça, j'invente rien du tout. Le plus beau, je dois être Walt Disney, quoi, avec Pocahontas, qui est la négation absolue du génocide amérindien. Tout ce qu'il nous présente, c'est globalement, strictement à l'inverse du réel, quoi. Il y a des très bons bouquins là-dessus, et évidemment, ça ne me revient pas en tête, il faudrait que je retrouve. Voilà, donc, on est effectivement face à une guerre du langage. Moi, c'est vrai que sur mes réseaux sociaux, c'est pas mal décrypté, mais dès que je mets le nez dans l'information grand public, y compris d'ailleurs sur Internet, c'est du moquage de figure. Enfin, vous allez à n'importe quelle manifestation, vous avez tout un tas de braves gens avec des poussettes, et puis tout d'un coup, vous voyez arriver trois abrutis. Je les ai suivis. Vous avez quatre CRS, et puis derrière, vous avez quatre flics en civil. Et les catholiques en civil, ils descendent, poum, à coup de matraque, une devanture. Et à ce moment-là, hop, les CRS chargent et hop, les poussettes s'en vont, poursuivis par les gaz lacrymo. Je veux dire, en plus, c'est vieux comme Mérode. Déjà en 1969, le SO de la CGT s'amusait à arrêter les casseurs et à leur enlever leur gros blouson pour montrer qu'ils avaient un brassard police nationale. Là, on découvre un petit peu le fil à couper le beurre avec ces histoires de casseurs. Les casseurs les mieux organisés, ils sont envoyés par la préfecture. Je pensais que ça se savait, et en fait, non, il faut le réapprendre. Et de fait, tout ce que vous pouvez lire dans les grands médias, donc ils sont possédés à 95% par des gros groupes de presse, par des fabricants d'armes, quoi. Focalise uniquement sur le fait qu'on a cassé une vitrine, qu'on en a tagué une, ou qu'il y a un abruti en cagoule qui lance des pavés. Je me demande d'ailleurs comment ils arrivent encore à trouver des pavés, parce que depuis mai 68, en tout cas à Paris, ils ont tout goudronné pour qu'on puisse justement plus choper des pavés. Mais moi, je pensais que c'était quand même bien ancré que les casseurs venaient de la préfecture.
Moi, mes parents me considèrent comme totalement folle. Ils se disent que je suis en train de virer complètement parano quand je leur dis la police a des consignes pour laisser agir les casseurs. Je ne vais même pas aussi loin que ce que tu dis. Je leur dis, il y en a qui ont témoigné pour dire qu'il fallait qu'ils attendent un certain temps que les casseurs aient bien démoli avant de les arrêter, et puis qu'il ne fallait pas hésiter à charger les manifestants paisibles qui étaient assis par terre, si possible avec violence. Et ils me disent, mais non, tu te laisses intoxiquer par...
D'ailleurs, au niveau lacrymo, ils ont mis au point des lacrymos qui sont beaucoup plus agressives maintenant. Elles collent davantage aux vêtements, elles sont plus lourdes, donc elles restent à hauteur d'homme, au lieu de s'évaporer. Et le problème, c'est qu'en tout cas, à Paris, elles descendent dans le métro. Elles prennent l'escalier, et c'est une véritable catastrophe. Sachant que ça permet d'évacuer énormément de gens de la des manifestations, puisque quand vous êtes vieux ou quand vous êtes enfant, le lacrymo, c'est très très mauvais. Moi, je voyais ça à une époque, parce que je suis militaire à Alfranc contre le Front National, et on a arrêté d'y aller parce qu'on avait un petit dans une poussette. Or, les types du Front National, ils savaient ce qu'ils faisaient, et quand ils avaient leur bombe lacrymo, ils ne gazaient que les vieux et les bébés. Parce que vous prenez de la lacrymo, c'est désagréable, et puis un quart d'heure après, ça va mieux, quoi. Par contre, les vieux et les bébés finissent à l'hôpital pour insuffisance respiratoire. Et ces techniques qui étaient dignes du Front National, ça y est, on commence à les retrouver dans la police nationale, ce que je trouve très très embêtant.
On avait une question. D'une manière générale, c'est vrai qu'on est un petit peu entre nous, on va pouvoir aussi pas mal échanger avec vous tous.
Parce que pour en revenir au thème littérature et rébellion, science-fiction, il y a un mot, en fait, il n'a pas été dit, c'était l'anticipation. En fait, tout ce qu'on dit, moi j'ai toujours eu que ça, en vérité. Et je suis assez vieille pour avoir du recul, et j'ai travaillé dans une très grande entreprise dont j'ai été virée, et j'ai fait toutes les manifs, donc je peux vous faire une synthèse de tout ça. C'était juste pour dire. Bon, en anticipation, effectivement, il y a eu des tas de... ça décrit le futur, donc les écrivains qui sont mis d'anticipation dans la science-fiction, l'anticipation c'est bien un genre dans la science-fiction, enfin à peu près, des trucs comme ça. Donc il y a déjà un paquet de trucs qui ont été écrits en anticipation depuis très longtemps. Alors peut-être que déjà, pour que les gens aient une idée commune, il faudrait peut-être qu'ils lisent les mêmes choses. Maintenant, en entendant tout ça, je me dis... quel dommage qu'on n'ait pas fait lire de l'anticipation aux gamins depuis des années, avec toutes les merveilles qui permettaient de réfléchir. Ce que vous avez dit aussi, monsieur, enfin, ce qui venait par rapport au fait de les écrivains, pourquoi ils réfléchiraient. C'est sûr que quand on est devant son papier, et ça, on anticipe, on se projette. Il n'y a pas longtemps, j'ai été à une conférence sur le cerveau. C'est intéressant, ils ont beaucoup parlé de la façon dont aujourd'hui le cerveau était amené à fonctionner dans l'immédiateté, ne serait-ce que même avec l'utilisation du téléphone portable à l'écriture. C'est-à-dire que ce n'est pas nouveau. Hein. Petit à petit, les gens sont arrivés dans l'instantané. Tout a été orienté dans l'instantané. Et la direction des entreprises, la gestion du pognon, pareil. C'est pour ça que ça doit être difficile. Enfin, il me semble qu'il y a quelque chose, je comprends qu'il y ait un lien qui soit fait, vers des gens qui ont l'habitude de, et puis on est tous un peu mieux, voilà, qui ont eu l'habitude de réfléchir et de se projeter. Dans les entreprises, on ne fait plus comme avant des plans à long terme. Moi, c'est ça que j'avais appris. Maintenant, les budgets, c'est à l'année, et puis hop, on te gagne 10%, 20% et toujours plus. Il n'y a plus de réflexion à long terme. Donc, il me semble que la difficulté rencontrée, elle se situe là-dedans, de se réapproprier une réflexion à long terme, pour se reprojeter et voir ben, telle chose, tels actes ont eu telle conséquence. Et pour ça, il y a des tas de choses à lire dans ce qu'on voit aujourd'hui, ça m'évoque déjà Soleil Vert, qui est le fétiche depuis longtemps, ben, on y arrive, hein, quand on voit ce qui se passe maintenant dans les moindres manifs, où effectivement n'importe qui est devenu un casseur, alors que ben, dans les manifs, moi j'en ai vu zéro, je les ai toutes faites. Il y avait des mémés, des pépés, des gens avec des poussettes, tout le monde, moi ça m'a exaspérée que dès qu'on allume la télé, on soit tous mis dans le même sac, on était tous des casseurs. C'était encore, ça c'est la propagande, il y a des bouquins entiers là-dessus qui expliquent comment ça marche, tout le monde peut s'informer. Moi c'est ça qui personnellement presque me révolte avec tout ce qui a déjà été écrit. Tous les bouquins qui existent depuis les années, même 50, tout ce qui a été fait après la guerre aussi, qu'un état d'auteur dans cette passion, tout le monde devrait avoir presque la même information. Je ne comprends pas personnellement comment des gens qui ont vu, parce que c'est souvent passé par les films, des films comme Soleil Vert, tout un tas d'autres films où effectivement on voit des mondes apocalyptiques. Pourquoi on en est là? Pourquoi ça n'a pas été plus vite la prise de conscience? Certainement servi par le fait qu'il y avait de la technique qui paraissait instantanément bénéfique et qu'on ne pensait pas à ce que ça pouvait devenir. Mais sans parler de science-fiction, quand on voit des documentaires qui ont déjà été servis depuis des années sur les îles entières avec des ordures, par exemple, c'est quand même incroyable. Moi, ma grosse question, c'est comment ça se fait que depuis toutes ces années qu'on en parle, qu'il y a des gens qui ont écrit des choses parfaites, presque, pour se projeter dans l'avenir, comment on en est encore là? Ça me sidère. Il faudrait quand même relire déjà tout ce qui a été écrit et pas attendre que des gens écrivent encore des trucs.
C'est parce qu'on n'a pas le pouvoir.
Ça veut dire qu'il faut qu'on arrête alors?
Non, pas du tout. C'est pas ce que je veux dire.
Non, mais aucun d'entre nous n'a pu lire. Personne ne peut lire tout ce qui a été écrit, même simplement ce qui a été écrit
dans
sa propre vie.
Pour commencer, voilà, c'est quoi les textes de base fondamentaux qu'il faudrait qu'on possède?
Est-ce que ce serait pas ça finalement la solution intégrée que dans les programmes scolaires peut-être dans le cadre dans l'éducation nationale si l'anticipation n'avait pas plus de place
L'année prochaine il y aura des femmes et de la science-fiction.
Parce que par exemple il y a un jeu qui a écrit Froid Prey. Qui c'est qui a écrit ça? Cet auteur qui est mort, américain, qui a écrit Prey. La croix. C'est mal que. Voilà. Bon, bah, ça, c'était de l'anticipation scientifique géniale sur les nanotechnologies. T'as vu ça, t'en veux plus. Non, mais c'est vrai.
C'est pas faux. Alors, il y avait encore deux questions dans le public, je crois qu'il y en avait une.
Non, c'était pas question. Moi, c'était par rapport, effectivement, la science-fiction. Enfin, moi, je suis prof, effectivement, c'est quelque chose. Je ne peux pas parler pour tout le monde. Enfin, moi, j'ai grandi en lisant de la science-fiction. Ouais. Ça me semble évident d'en faire lire aussi à des élèves et puis même des collègues qui ne sont pas spécialement fans de SF, tout normal, effectivement. C'est un champ d'études de la littérature normale, même en dehors des considérations politiques, enfin, ça fait partie de la littérature, donc c'est normal de le dire. Donc ça, pour répondre à la question, oui, les enfants de cette génération, a priori, ils iront, je ne sais pas, par exemple, Barjavel à l'école, ce genre de choses. Voilà.
Non, c'est pas. Pour répondre à la dame de tout à l'heure, je ne sais pas qui a parlé, mais en fait, c'est effectivement, on a écrit énormément de choses qui devraient, je veux dire, moi je suis d'accord, on prend en sixième, on file la zone du devoir à tout le monde, et normalement on devrait s'en tirer correctement. Par contre, c'est se mentir à soi-même que de s'imaginer qu'il n'y a pas de réaction en face. C'est-à-dire que là, on est tous d'accord aussi, c'est sûr, mais en face de nous, on a une armée aussi. Donc, effectivement, s'il n'y avait que nous qui parlions de cette anticipation, c'est une chose. Mais par contre, des gens qui sont là pour détruire le discours qu'on a là actuellement, que ce soit dans le champ de la politique politicienne d'ailleurs ou dans la rue, chez nous directement, vous avez déjà parlé à un banquier, vous avez déjà tous parlé à un assureur. Vous savez très bien que vous avez des gens qui sont là pour vous vendre des lendemains qui chantent, de toute façon. Donc à partir du moment où on a ça, il ne faut pas se leurrer sur le fait que c'est un combat qu'on doit mener. C'est le fait d'avoir fait des trucs bien, c'est génial. Mais si jamais nous on marque 2 buts et qu'en face ils en marquent 28, c'est eux qui gagneront la partie.
Oui, mais là on parlait aussi du langage. Il se trouve que j'ai des trucs dans les mouvements sectaires où en fait le premier principe c'est de pervertir le langage. C'est-à-dire même jusqu'à toutes les notions de bien deviennent celles de mal. Tout est inversé. Et le fait est que je suis extrêmement troublée quand j'entends les discours même de Manuel Valls, putain, je l'entends, pardon. Il parle à l'envers. Moi, je comprends, il parle à l'envers. Toutes les valeurs ont réussi à être inversées. Alors, je ne vais pas citer les mouvements sectaires auxquels ça fait penser, mais franchement, moi, ça me fait flipper. Alors, si tu en face...
Il y a la scientologie qui était pas mal.
Oui, il y a presque encore pire. Alors,
parce que Rodney Barr,
tu retournes les trucs comme ça, mais ils sont tous là-dedans. Et en fait, quand les gens sont dans ce truc-là, c'est parce qu'ils ont un intérêt. Bon, alors, l'intérêt de ceux qui nous pompent, bah, c'est une pompée.
Oui, mais...
Et avec quoi ils nous pompent? Avec du... Enfin, c'est le fric. Moi, la seule solution, c'est que je dois te couper le sang. Tu vois, t'arrêtes, on arrête de dépenser, puis ils se démerdent. Au revoir.
La seule chose positive qu'on pourrait dire, alors entre guillemets positive, hein, c'est que justement, s'ils ont si peur, c'est qu'ils savent que c'est pour bientôt...
Et même là, c'est vrai, il n'y a pas de réaction s'il y a pas, si ceux qui, en général, en tout, dans, à chaque fois, c'est décrit, ben, c'est quand on redoute quelque chose, la réaction est très forte parce qu'ils en ont peur.
Nous, ils nous maintiennent dans une sorte de peur latente qui fait qu'on ne peut pas, qu'on peut pas se défendre parce que c'est une peur latente. Mais en même temps, eux, ils ont peur.
Dans la planète des singes. Il y a un moment, la zone interdite, elle est. Moi, je parle tout le temps de ce truc. Par un hologramme qui fait un rideau de feu. Ouais, vous l'avez vu, ce truc-là? Et en fait, c'est un hologramme. Les singes, ils ont tous peur de passer de l'autre côté. Mais c'est un hologramme.
Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au niveau des grandes entreprises, que vous parliez, vous disiez que moi aussi, j'ai fait partie, j'ai travaillé dans une très, très grande entreprise. Les dividendes ont beaucoup baissé. Mais il faut les actionnaires veulent le même rendement. Donc pour garder le même rendement, il faut sortir des gens. Il faut moins investir. Il faut moins investir sur l'avenir, surtout. C'est-à-dire que même dans les grandes, très grandes entreprises, les investissements pour le développement et la recherche ont été diminués par 2. Plus le nombre de gens qui sortent. Effectivement, on est de plus en plus dans un instantané. On ne pense plus à l'avenir. Même les entreprises en premier ne pensent plus à l'avenir. Les hommes politiques en premier ne pensent plus à l'avenir. Pourquoi ils ne pensent plus à l'avenir? Parce qu'ils n'en voient pas. Donc du coup, ils nous noient dans du buzz, ils nous noient dans du... ils font passer des mouvements sociaux comme les Nuits Debout. On ne parle que des casseurs. Pourquoi? Parce qu'on ne doit surtout pas parler...
Du fond.
Que l'avenir qu'on nous propose...
Mais non, pas en parler, c'est le rendre inexistant. Bon, voilà.
Et c'est aussi ce qui nourrit l'angoisse. Et en même temps, on sent qu'ils essayent de cacher...
C'est surtout pour l'affichage. Il y a un moment... Parle d'argent qui n'existe pas. Hein. C'est tout de l'affichage. Mais les gens s'habituent à faire ça. C'est ça qui est bizarre.
C'est comme si tout le monde avait plus ou moins le nez devant le mur et personne ne pouvait le voir, essayer de le grimer à coup de, voilà, à coup de com, à coup de...
Bon, moi, pour essayer de répondre, je dirais d'abord, savoir, c'est pas pouvoir. Hein. Ça, c'est ce qu'on appelle le mythe du grand public. Vous verrez ça beaucoup, beaucoup à la fin des films américains. Le but du méchant, c'est que ça se sache pas. Alors, à la fin du film, c'est une happy end parce que tout d'un coup, tout est révélé au grand public. Voilà. Par exemple, dans, je crois que c'est Blue Diamond, il y a les diamants de sang et il y a Leonardo DiCaprio qui meurt au pied de son arbre. Mais le grand public, maintenant, est au courant que les diamants sont sanglants. Et, enfin, bref, il y a des diamants qu'il ne faut pas acheter parce qu'ils sont payés au prix du sang. Ça n'a rien changé. Enfin, le grand public est au courant. Les entreprises qui vendent du Blue Diamond se portent, ma foi, fort bien. Si jamais vous voulez aller les empêcher d'agir, il faut que vous payiez des tontons macoutes et que vous vous entriez en guerre ouverte. Hein. Il faut acheter des kalachnikovs et savoir s'en servir. Mais le Blue Diamond est toujours aussi bien vendu, d'aussi bonne qualité. Et le fait que le grand public sache, c'est encore un mythe capitaliste véhiculé par cette magnifique chambre d'écho qui est Hollywood. On nous fait croire qu'on a un pouvoir immense, en fait, on a un pouvoir de juste rien du tout. Et le passage en force de la loi El Khomri, c'est véritablement ça. Si on détruit le droit du travail, on se paye des politiques pour faire ce sale boulot, et c'est toujours les mêmes qui vont se mettre de plus en plus d'argent dans la poche avec, en exploitant de plus en plus de monde, sachant que le but ultime, c'est quand même la disparition de la classe moyenne.
C'est quasiment fait. Hein.
Voilà, c'est fait. Tout, non, on n'est pas encore mort, quoi. Non, on est de la classe moyenne. Et globalement, dès que vous avez une dictature, il y a une mince couche de très riches, il n'y a rien entre les deux et tout le monde est pauvrissime et sans éducation. Et même s'ils arrivent à avoir de l'éducation, ils peuvent être bac plus 12, ils seront quand même chauffeurs de taxi à mi-temps de nuit. Donc on va effectivement vers une érosion de la classe moyenne, on va vers... on est sur les pas d'une dictature, et c'est pas parce qu'on le sait, c'est pas parce qu'on est intelligent que ça change quoi que ce soit. Alors il y en a qui disent qu'il faut passer par le vote, il y en a d'autres qui disent qu'il faut passer par la lutte armée. Malheureusement, nos votes sont achetés. Quant à la lutte armée, c'est toujours le même problème. Pour ça, il faut avoir des armes et savoir s'en servir. Et ceux qui savent faire ça, c'est les militaires. Et je vois très très mal quelque chose de bon sortir d'une action militaire. Voilà, globalement, on arrive à la domination d'une junte. Et c'est peut-être pour ça que la SF n'a plus trop grand-chose à dire. En tout cas, moi, j'ai écrit beaucoup d'anticipation. Globalement, j'arrive à une vision absolument abominable et apocalyptique, puisque ma science-fiction a pour volonté d'alerter. Hein, je n'écris pas Fifty Shades, moi j'écris des trucs pour angoisser les gens. Et une fois que voilà.
C'est angoissant aussi.
Oui. Allez, c'est pour ça qu'il y a des gens qui ne lisent pas de SF parce que c'est angoissant. Déjà, ça se passe après leur mort, et puis en plus, c'est toujours des perspectives abominables. Et une fois que j'ai bien angoissé le monde et moi-même, j'estime que j'ai peut-être suffisamment fait, qu'il est temps que je me mette à écrire des trucs de cul, parce que c'est quand même plus drôle. Et plus... Bon,
il y a aussi la loi sur les lanceurs d'alerte hein, au niveau européen.
Oui. Bon, il y a la loi et puis il y a la réalité. Ouais. C'est quand même un décalage assez significatif aussi.
Oui, quand on voit comment ils sont traités, oui. C'est monstrueux. Quoi.
Enfin, quand même, dans les œuvres d'anticipation de science-fiction qu'on a vues, il y en a beaucoup qui sont apocalyptiques. Ça, c'est quand même... Si on voit le truc un peu globalement, il y en a quand même beaucoup.
Est-ce qu'il y a ça, c'est obligé, parce que là, on est sur de la littérature. Or, là,
oui, moi, je croyais que c'était de ça qu'on parlait.
La littérature... ou toute autre forme d'art, elle doit quand même un peu être scénarisée, et les peuples heureux n'ont pas d'histoire. Ça, c'est clair. Si vous voulez une histoire, vous ne pouvez pas commencer par ça va bien, ensuite ça va encore mieux, à la fin ça va merveilleusement. Si tout le monde s'ennuie. Il n'y a qu'une seule utopie qui fonctionne, enfin, moi, de mon sens, c'est Demain des chiens de Clifford Decimac, tout simplement parce qu'ils commencent par se débarrasser des humains. Voilà. Parce que l'être humain est une mécanique beaucoup trop complexe pour aspirer au bonheur, puisqu'elle essaye de concevoir l'infini avec un cerveau qui est conçu pour faire la différence entre deux banales. Donc forcément, on est face à probablement une espèce avec un destin tragique. Et en tout cas, on a besoin de tragique et de catastrophe pour pouvoir ambitionner d'écrire un bon bouquin. Il y a ça aussi.
J'aurais une question. Comme on parle beaucoup de science-fiction, et que la science-fiction a... Bah, un peu pour but aussi d'alerter et de faire comprendre un peu ces problèmes aux gens. Le fait qu'on est justement dans de la fiction, est-ce que ça n'aurait pas l'effet inverse, justement de discréditer toutes ces choses et de dire, bah, au final, c'est de la fiction, c'est pas possible, vu qu'on est toujours sur, souvent, sur une dystopie, on va prendre vraiment quelque chose qui est allé au plus mal possible. Et que la fiction face à la réalité, eh ben on reste dans c'est un peu cet avis de ça reste de la fiction face à la réalité qu'on a. Je parle ça pour le grand public, qu'on va manger beaucoup d'œuvres de fiction, et au final, comme c'est toujours notre livre qu'on va avoir au chevet, c'est un peu comme si on fermait notre bouquin en disant ça reste de la fiction. Donc, est-ce que voilà, c'est cette fiction justement, même d'anticipation, n'aurait pas en fait ça discréditerait en fait ce qui se passe vraiment.
Tout à fait, d'où le fameux, mais c'est de la science-fiction, mon cher.
Voilà. Oui, c'est ça, en fait, on ferme le bouquin et on est soulagé, parce que voilà,
c'est
la réalité est moins pire.
Ce que ça engendre au final.
Ceci dit, il me semble qu'il n'y a pas une grande partie de la science-fiction qui est post-apocalyptique. Oui. Ça ne doit pas en représenter même pas le quart, il me semble, si on devait faire des stats. En tout cas, c'est moins du quart de ce que j'ai lu moi. Que d'autre part, je veux bien qu'on dise la mission de la science-fiction, c'est faire ci ou ça. C'est bien noble, mais moi j'écris juste des histoires. Hein. J'ai pas un rôle à jouer vis-à-vis de la science-fiction. Je me sens investie d'aucune mission, même très noble et sacrée. Après qu'on ait envie de réfléchir et qu'on ait envie d'y mettre des trucs qui nous travaillent les tripes ou le cerveau, oui, bien sûr, mais on n'a aucune mission à remplir. Après, il y a des gens dont c'est le boulot de réfléchir à l'avenir. Ils s'appellent les prospectivistes. Et ils ne racontent pas des histoires, ils ne travaillent pas comme nous. Et on n'attend pas la même chose d'eux que de nous. Et plus personne, d'ailleurs, n'attend que les prospectivistes aient raison quand ils essaient de faire des projections dans l'avenir. On a tous compris que l'avenir était la résultante d'un ensemble de facteurs tellement complexes, et il y a tellement de facteurs qui interagissent, que de toute façon, même les meilleurs prospectivistes, s'ils essaient de raisonner au-delà de 5 à 10 ans, ils sont sûrs de se planter. Nous, on ne prend pas le risque de se planter ou pas se planter, puisqu'on ne prétend pas dire la vérité sur ce qui va se passer. Tout ce qu'on peut essayer de faire, c'est d'abord d'être cohérent, et d'être cohérent en travaillant sur les aspects qui nous intéressent de ce qu'on voit émerger. On n'essaie pas de travailler sur toutes les évolutions à la fois. Moi, je suis absolument infoutue de réfléchir à la fois sur, l'évolution de l'atmosphère terrestre, la diversité biologique, la surface de la Terre, l'évolution des technologies de communication, la miniaturisation, la microtechnologie et le transhumanisme. Je ne peux pas réfléchir à tout à la fois, personne ne peut. Mais on n'a pas du tout aucune mission, même vis-à-vis de Nuit Debout. C'est très sympa qu'on dialogue ensemble, qu'on discute, et c'est très sympa qu'on discute ensemble aujourd'hui. Mais comme disait Dominique, on ne détient aucune vérité particulière, on n'a aucune légitimité particulière pour dire quoi que ce soit sur l'avenir. C'est juste qu'on aime bien écrire des histoires qui soient suffisamment cohérentes pour que les lecteurs aient envie de les lire, ce qui est déjà une contrainte assez forte.
Pour en revenir sur l'aspect science-fiction et fiction, il y a quand même des choses qui se font dans le domaine de... Enfin, il y a des choses qui se font dans l'imaginaire. C'est-à-dire qu'on parlait de propagande. La propagande, c'est un imaginaire. C'est quelque chose qui n'est pas vrai, en fait. Donc, on est dans l'imaginaire. Et faire la science-fiction, même si elle n'a pas un rôle... elle peut avoir un rôle, entre guillemets, prospectif et encore... ça dépend des auteurs, et voilà, on ne peut pas le savoir au moment où on l'écrit, on le saura 10, 15 ans, 20 ans après en général. Il y a quand même un symbolisme des idéologies qui peuvent être véhiculées par la science-fiction. Et quand vous disiez, effectivement, on voit une dystopie, on se dit, on ferme le livre en se disant, ah, bah, finalement c'est bien, c'est moins pire que ce que je vis, ça marche, comme disait, jusqu'au moment où ce que vous vivez, c'est exactement ce qui est écrit dans le livre. C'est quand même quelque chose qu'il faut rappeler. C'est-à-dire que la science-fiction, on vous dit oui, c'est de la science-fiction, ça ne nous arrivera jamais, sauf que là, on voit bien que c'est en train de nous arriver. Donc ça ne marche plus, cet argument-là.
Oui, juste un mot. On parle science-fiction, mais je pense qu'on pourrait remplacer science-fiction par complotisme. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, les ouvrages de science-fiction fonctionnent un peu de la même façon que les thèses complotistes. Alors, le complotisme, moi j'ai découvert ça un jour en regardant sur YouTube, et je tombe sur un discours d'Obama qui était passé à l'envers, et ça donnait un truc par le satanique. Bon, alors il y a ça dans le complotisme, mais il y a aussi l'obsolescence programmée. Jusqu'à une date assez récente, on ignorait que, au début vers les années 1920, les fabricants d'ampoules à incandescence s'étaient réunis pour décider de cette obsolescence programmée. Et pour la science-fiction, pour un livre de science-fiction, je pense que c'est la même chose. Il y a tout un tas de trucs qui sont liés au romantisme de l'auteur ou simplement à la technique littéraire, et qui, ma foi, ne doivent pas être de véritables clignotants, mais je pense que même inconsciemment, un auteur de science-fiction régurgite des choses qu'il sent profondément, mais même tout à fait inconsciemment, mais ça figure dans les livres. Et ça, il est difficile de le décrypter tout de suite, mais je pense que Le meilleur des mondes, par exemple, Huxley, je ne sais pas s'il avait vraiment une idée très précise de ce qu'il voulait écrire. En tout cas, ça doit faire 80 ans après, ma foi, il y avait quand même des choses qui étaient prémonitoires.
Oui, mais on peut écrire plein d'histoires de rencontres avec des extraterrestres. Donc je ne suis pas du tout sûre que ce soit prémonitoire. La science-fiction est quand même plus vaste que ce à quoi on est en train de la réduire en ce moment.
Oui. On la réduit en ce moment parce que c'est... Enfin,
oui, c'est le sujet du débat. Nous sommes cohérents dans ce débat.
Ouais, alors on avait deux questions.
Est-ce que la SF doit être nécessairement réaliste? Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de romans de SF qui vont mettre le doigt sur un problème précis qui met en image, mais il y a beaucoup de romans de SF qui vont aussi choisir de partir complètement dans l'imaginaire pour faire une sorte de fable et plus mettre le doigt sur un concept plus abstrait. Enfin, je pense All You Need Is Skill, par exemple, est plus sur le problème de l'expérience sans forcément parler de la technologie. On a cité La Zone du Dehors tout à l'heure qui, justement, pointe un truc réaliste, mais L'Or du Contrebande, c'est aussi un roman de SF qui pointe quelque chose de plus abstrait sur l'évolution deleuzienne, parce qu'il n'y a pas une partie de la population qui voudrait passer une société de mouvement et de rester figée. Enfin, voilà, et justement, le reproche qu'on fait souvent aux auteurs de SF, c'est de la science-fiction, c'est parce que souvent ils ont fait une société réaliste, voire trop réaliste, et pourtant, malgré tout, ils ont vraiment un impact et un intérêt, enfin, vous allez me dire ce que vous en pensez, au sens où ils inventent des fables et ils arrivent quand même à refaire surgir des choses inconscientes et des vraies idées abstraites au-delà du petit détail.
Oui, effectivement, moi j'en suis resté à une idée deleuzienne qui n'avait pas été exprimée directement par Deleuze, mais par un de ses disciples, Boris Zikman, qui considérait la science-fiction comme la littérature désirante, par essence. Et je pense que ça c'est ce qui, pour moi, ça reste une permanence. Quoi. La science-fiction, pour moi, en tout cas, est une littérature de désir.
On approche bientôt de l'heure de table ronde, donc on va programmer la fin pour dans les 5-10 minutes. Il y avait une question là-bas.
Ouais, moi, je voulais juste faire une petite remarque rapidement sur l'intérêt, la pertinence de la science-fiction aux anticipations aujourd'hui. Moi, simplement, il me semble qu'aujourd'hui, l'actualité, c'est aussi beaucoup d'immigration de masse, on en a parlé rapidement. Et j'ai découvert récemment ce livre dégueulasse qui est le Camp des Saints de Jean Raspail, 1973, qui, à l'époque, envisage une flotte de 1 million d'Indiens qui vont arriver, qui vont envahir la France et l'Europe. Et les Français... bouffés par la gauche qui sont incapables de se défendre, de tirer sur des immigrés. Donc aujourd'hui, ça a été réédité. Jean Raspail, du pavane dans les médias d'extrême droite en disant j'avais prévu les choses. C'est en train d'arriver. Il y a toute une vague aujourd'hui. Bon, il y a Houellebecq, évidemment, il y a Solution, il y a un éditeur d'extrême droite qui en publie plusieurs, comme ça, des dystopies, d'anticipation. Il y a la mosquée Notre-Dame de Paris de 1048, par exemple, d'un auteur russe. Donc il y a comme ça tout un courant de dystopie qui est vraiment politique, politisée, extrême droite, et qui est en train de marcher assez bien. Et puis de l'autre côté, il y a ce fameux film dont on va parler, Children of Men, qui parle de l'immigration en Europe, des camps qui vont arriver. Le film date de 2006, mais bon voilà, on est déjà quand même bien dedans, je crois. Et qui lui, par contre, a un point de vue plutôt plus de gauche, en tout cas, plus humaniste, on va dire, en tout cas, sur l'immigration. Donc, c'est juste... à titre d'illustration, en quoi il me semble quand même que l'anticipation, la science-fiction, comme on veut l'appeler, a un vrai rôle et peut vraiment quand même faire parler, discuter et interpeller les gens aujourd'hui, concrètement. Quoi. Voilà.
Elle peut avoir un rôle idéologique dans la mesure où elle véhicule des idées. Et je pense que l'extrême droite, quand j'entends parler que l'extrême droite s'intéresse à la science-fiction, ça me fait peur.
Ouais.
Parce que c'est vrai que c'était quand même une pensée...
C'est pas mal de gauche, là,
oui, c'était quand même une pensée qui était préemptée, enfin pas préemptée, mais plus ou moins quand même plus de gauche. Quoi. Ouais, je veux dire que si même
Après l'histoire du prix Hugo,
c'est
clair que la droite est en train d'en faire
ils ont compris que
un
ça
média
intéressant,
qui peut les intéresser.
Oui, ou quelqu'un comme Heinlein, qui était quand même démocrate et qui a passé férocement républicain. Moi, ma difficulté que moi je rencontre dans le fait d'écrire de la SF, c'est pas tellement d'être cohérente, mais c'est de rester projective. C'est-à-dire que dès que j'imagine un truc d'anticipation vraiment, vraiment cynique, c'est déjà inventé en fait. Je m'aperçois que je suis totalement aux fraises et que ça fait 20 ans que ça existe. Par exemple, j'avais fait une nouvelle sur une centrale nucléaire qui fuit. Et. C'est un bon sujet. Voilà. Donc il y a un type qui arrive, et puis alors on lui dit veuillez changer ces joints qui fuient. Et il dit bah, écoutez, il faut tout arrêter, puis il faut tout changer. Et le type dit vous vous rendez compte combien ça va coûter. Et puis voilà, l'entretien s'arrête là, donc il contacte son avocat en disant il faut quand même les obliger à arrêter cette centrale, ça va faire péter. En plus, ça va péter dans leur jardin. Et là, l'avocat ricane en disant mais enfin, ces types qui prennent les décisions, tu penses bien qu'ils ils habitent à l'autre bout de la France, qu'ils sont venus par jet privé, qu'ils sont repartis un quart d'heure après tout. Et on en a parlé sur un forum de science-fiction, et il y a un gus qui m'a dit ah oui, toi aussi, donc tu étais au courant que à Phoenix, effectivement, on fait venir un staff de l'autre bout de la France pour qu'ils prennent les décisions de bypasser les sécurités. Hein. Phoenix, ils en sont à 6 bypass, Tchernobyl, c'était 8. Afin qu'ils puissent prendre leurs décisions en toute impartialité.
Sereinement.
Voilà, donc ce que moi j'avais imaginé comme un summum de cynisme anticipatif, en fait pas du tout, ça fait 20 ans que ça existe. Donc moi je rame quelquefois derrière le réel et je m'aperçois que, ouais, non, c'est peut-être l'âge, mais je suis de moins en moins science-fictive et je suis de plus en plus dans le réel quand même.
Moi j'avais une question concernant, donc voilà, vous êtes les uns et les autres passés plusieurs fois sur les nuits debout, vous suivez l'actualité, est-ce que les événements récents politiques ont pu vous donner des idées, vous inspirer peut-être pour des futurs récits? Voilà.
Oui.
L'ICAM.
Oui. Oui, oui. Non.
Alors, sans nous dévoiler le pitch d'un éventuel futur ouvrage, mais...
Oui, parce qu'on parle de science-fiction, on parle d'idées, mais c'est aussi des émotions. Et ce qui est en train de se passer, ça parle au cœur, parce qu'on voit des gens qui sont en colère, des gens qui sont mal dans leur peau, mal dans leur vie, qui voient plus de solution, qui voient un avenir... voilà, qui ont peur pour leur avenir proche. Donc forcément, ça parle au cœur et ça, c'est des histoires qu'on a envie de raconter. Oui. C'est des histoires, et puis on a envie, sans parler de trouver des solutions, mais on a envie de relayer ces voix, de relayer cette lutte. Oui. Quitte à la transposer ailleurs ou quitte à la modifier, mais parler de cette émotion.
Là, je suis d'accord avec ce que dit l'ICAM. Moi, je conçois l'écriture comme une manière de donner des voix à des individus qui sont pris dans des situations, dans des univers qui les dépassent, dont ils ne comprennent pas forcément tout, au sein duquel ils doivent faire des choix. Mais c'est des trajectoires intimes qu'on essaie de construire. Et des trajectoires intimes, alors... le fait de se sentir complètement paumé, je ne suis pas sûre que ce soit un bon point de départ pour une histoire. Par contre, essayer d'imaginer des contextes, des situations dans lesquelles il faut faire des choix qui ne sont pas des choix faciles, oui, ça m'intéresse. Mais après, c'est de plus en plus fréquent, malheureusement, de rencontrer des gens qui ne savent pas où ils en sont, ce qu'ils veulent faire, qui trouvent que tout ce qu'on leur offre comme possibilité, il n'y a rien qui les branche vraiment là-dedans. Il suffit d'avoir des enfants, des copains, pour être entouré de gens qui ne savent pas de quoi ils ont vraiment envie. Parce que les choix qu'on nous offre actuellement, dès qu'on parle de choix professionnels, de choix même que nous offre, je sais pas, la télévision, que nous offre le cinéma, que nous offre notre patron, voilà, bon, je ne sais pas si on peut faire des romans rien qu'avec ça.
Alors moi, c'est certain, hein, au lieu de lire... avant, j'allais plutôt pour trouver l'inspiration, parce que moi, j'écris en nourrissant des autres. Hein. C'est une forme de vampirisme. Moi, j'allais lire, je ne sais pas, Nature, Research. Et maintenant, non, il suffit de regarder Nuit debout et tout ce qu'il y a autour. Je n'ai plus besoin de lire, il me suffit d'écouter et de regarder. Enfin, je ne sais pas, là... Je suis allée aussi, par exemple, une autre chose, l'European Lab qui a eu lieu à Lyon il y a une semaine. Il y avait énormément de gens qui sont venus de toute l'Europe pour expliquer comment eux, ils montent des actions qui sont dans l'action sociale ou politique. Il y a des idées juste géniales. J'ai croisé un groupe de gens handicapés. Alors, ils manquent un bras, une jambe. Mais ils se les impriment. Ils ont fabriqué leur imprimante 3D. Et puis, ils s'impriment leur bras. Et c'est juste génial. Et moi, de toute façon, ça va ressortir dans ce que je vais écrire, ne serait-ce que parce qu'on commande de plus en plus... on commence de plus en plus à me commander des nouvelles tournées là-dessus. Quel sera le travail dans l'avenir? Il y a une volonté d'un certain nombre d'éditeurs de science-fiction, d'anticipation de genre, de sculpter un peu plus avec le réel qu'avant.
Notre intervention... Dernière question, du coup, parce qu'après on va conclure.
Je voulais répondre à ta question également. En tant qu'également auteur, j'ai pas mal également fait de recherches et moi, c'est vraiment ce déclic-là des recherches du vampirisme, comme vous dites, qui a déclenché mon intérêt sur le sujet. Que ce soit environnemental ou même au niveau de la science. Là, je suis tombé sur une œuvre, par exemple, de Miyazaki, l'une de ses premières séries, c'est Conan, le fils du futur, une série manga animée, qui parle justement d'une société industrielle et d'une société plus agricole, plus tournée vers l'écologie, etc. Et pour moi, en fait, qui me suis vraiment pas du tout intéressé au monde politique, etc., j'attendais justement un déclic. Et je pense que là, avec Nuit debout, et il y a vraiment une prise de conscience qu'on attendait depuis déjà, je pense, pas mal de temps, qui se met en place. Et surtout, ça permet, quand on parlait de l'Europe, de regrouper tous les gens qui, chacun de leur côté, avaient déjà mis des actions en place. Et c'est ce que, un peu aussi déjà, la science-fiction, on parle de prédiction, etc., on en parle là-dessus, et je pense que c'est vraiment intéressant au niveau du débat d'avoir des auteurs de science-fiction, de fantastique, de tout horizon. Ils n'ont pas une tâche, une obligation de mener les gens, mais vraiment plus. Je pense que si tout le monde ferait ce genre de choses, de recherche, d'écriture, etc., d'ouverture d'esprit également, je pense que la société changerait littéralement, et je pense que ce système, c'est un système de débat qui pense au changement, mais qui est lui-même déjà le changement. Il faut que la société reste comme ça et pas qu'on change vers quelque chose et qu'on arrête tout et qu'on laisse comme aujourd'hui la politique se faire, etc. Je pense qu'on a justement on commence à créer un mouvement où tout le monde prend conscience des choses, partage des choses, et je pense, pour moi, c'est quelque chose qui doit perdurer, en fait, qui ne doit jamais cesser, que ce soit pour des auteurs de science-fiction ou pour tout le monde.
C'est la démocratie.
C'est la démocratie.
Mais c'est vrai qu'on le dit.
Mais on le dit, voilà, parce qu'on dit, voilà, les auteurs de science-fiction, qu'est-ce qu'on peut amener, mais justement, c'est ce que tout le monde, en fait, peut amener par l'imaginaire.
Est-ce que vous avez un mot de la fin, peut-être une conclusion par rapport à ce sujet-là? Une dernière idée qu'on n'aurait pas forcément. forcément abordée à travers les discussions.
La science-fiction, c'est bien.
Voilà. Ouais.